un triangle, une religion, c'est la règle de trois de Souleymane Bachir Diagne. Ses deux amours sont la philosophie et les mathématiques. Né à Saint-Louis en 1955, il obtient un bac scientifique à Dakar, enchaîne avec Hippocagne Cagne au lycée Louis-le-Grand de Paris, intègre Normale Sup, obtient l'agrégation de philosophie, c'est déjà pas mal, mais en 1982, il soutient également une thèse de doctorat en maths à la Sorbonne sur le thème de l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique.
La vérité, c'est que, professeur, vous êtes un crack reconnu à la précocité avérée. Vous êtes un génie à l'inspiration inépuisable.
En 1988, pour le plaisir, il soutient une autre thèse de doctorat intitulée « Philosophie symbolique et algèbre de logique, les lois de la pensée de Georges Boulle ». Plutôt bon élève, donc, il transmet aujourd'hui son savoir en enseignant à l'Université Columbia de New York.
Quand on est professeur, c'est qu'on veut rester étudiant.
Le triangle est constitué par Léopold Sédar Senghor, le philosophe-poète Mohamed Iqbal et Henri Bergson. Souleymane Bachir Diagne a tracé ce triangle dans Bergson Postcolonial, paru en 2011, un livre dans lequel il expose le concept bergsonien d'élan vital et la traduction politique qu'en ont fait Iqbal et Senghor, soit la désaliénation et l'émancipation des peuples colonisés.
Quand un enfant est devenu grand et qu'il a atteint sa majorité, il prend ses responsabilités et décide de fonder un foyer.
La religion, c'est l'islam. Depuis l'enfance, Souleymane Bachir Diagne est très imprégné de culture soufie.
Ma propre décision de faire de la philosophie avait quelque chose certainement à voir avec cette sorte d'inquiétude spirituelle qui est propre à un islam mystique.
En conséquence, ses travaux consistent aussi à penser l'islam. Dans « Comment philosopher en islam », par exemple, il convoque les philosophes des Lumières musulmanes.
Les religions, de ce point de vue, sont elles-mêmes le remède du poison qu'elles peuvent constituer.
Aujourd'hui, il se sent donc en responsabilité de transmettre l'histoire de l'islam et sa tradition de pensée libre et critique.
Eh oui, c'est vous, un crack mystique, si on résume, Souleymane Bachir Diagne.
Vous savez, mon amie, la philosophe Catherine Clément, m'appelle oui. De temps en temps un soufi althusserien.
Ah, joli, oui, parce que vous avez été l'élève d'Althusser à Normale.
Et l'élève d'Althusser, hein,
et de Derrida aussi, oui, absolument. Parlons de l'Europe. Vous administrez une sorte de camouflet et de gifle à l'Europe, en tout cas aux Européens qui considéraient que l'eurocentrisme, c'est bon encore au XXIe siècle, et vous dites c'est fini tout ça. Il faut apprendre à se décentrer.
Oui, c'est moins que c'est bon, plutôt que c'est naturel. L'idée que l'universel, l'Europe incarne tout naturellement l'universel et que, au fond, l'irruption sur la scène de l'histoire de toutes ces masses afro-asiatiques depuis Bandung, c'est venu un petit peu troubler l'universel. C'est un schéma qui ne convient absolument pas parce que ça consiste à considérer qu'il y a un centre du monde et des périphéries. Il faut abolir centre et périphérie.
Vous parlez d'universel et l'universalisme, c'est aussi dans votre ligne de mire, l'universalisme au sens justement de cette invention de l'Europe à l'époque des Lumières. Vous dites oui à un universalisme latéral, mais non à un universalisme de surplomb. S'il vous plaît, expliquez-nous ça.
Alors d'abord, je cite là Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui parle d'un universel de surplomb qui n'aurait plus cours justement. Dès lors qu'il y a ce décentrement, qu'il n'y a plus une Europe placée au centre du monde et donnant le là au reste du monde. Et il dit que l'universel aujourd'hui, c'est un universel horizontal ou latéral, un universel, disons, de négociation. On le voit d'ailleurs sur une question comme le climat. Nous sommes tous d'accord sur la vérité.
Enfin, tous, presque.
Presque.
Presque, on en parlera tout à l'heure, à l'exception d'un certain.
D'un certain.
Ouais. D'accord. Et on peut faire monde.
Et on peut faire monde.
Destin commun malgré l'absence.
J'insiste toujours sur l'universel parce que sinon c'est le relativisme, chacun ne se justifie que dans son contexte propre, c'est la fin de l'idée même d'humanité.
D'accord. Vincent.
Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez un continent africain uni et vous êtes optimiste sur l'Afrique. Vous considérez que le meilleur est à venir si l'on voulait.
Je le crois. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique offre un certain nombre de germes de changement. Le discours sur l'Afrique change. On avait le sentiment jusqu'à il y a peu que le lien à l'Afrique était un lien forcément humanitaire parce que c'était le continent des catastrophes. Le discours change. On a l'impression aujourd'hui, et c'est une impression juste, me semble-t-il, que c'est un continent avec lequel il faut construire des partenariats parce que c'est un continent qui a de l'avenir. Et je pense que cette démarche prospective, cette vision est fondamentalement juste.
Alors, en ce moment, l'Afrique, vous le savez évidemment, est confrontée au terrorisme islamique.
Oui, absolument. Et cette question-là, elle est un peu sortie des radars médiatiques. On en parle assez peu, mais pas des radars militaires, puisqu'on vient d'apprendre justement que les États-Unis préparaient d'intenses frappes militaires en Afrique, essentiellement contre Al-Qaïda et contre le groupe État islamique. Et ça pourrait donner l'impression erronée qu'ils sont les seuls groupes terroristes sur le continent, ce qui est loin d'être le cas. En tout cas, si on prend le temps de les recenser, ils sont très nombreux. Pour prendre quelques exemples, pardon, au Mali et au Burkina Faso, ce sont pas moins de 7 groupes djihadistes qui organisent des attaques très régulièrement. En Libye, ils sont 6 à terroriser la population. Il y en a beaucoup d'autres, on les voit sur cette carte-là. Et le nombre d'événements violents liés à ces groupes a augmenté de 38% durant les 12 derniers mois. Comment expliquez-vous déjà qu'on en soit là et que faire pour enrayer ce phénomène, cette pensée qui se diffuse et qui va jusqu'à la constitution de groupes?
C'est vrai que là, il y a un phénomène de fragmentation, on a presque envie de dire de métastase. Et ça, c'est terrible. Parce que, par exemple, au Mali, où les pouvoirs politiques maliens essayent de négocier, essayent de construire une paix, quand il y a une fragmentation de cette nature, vous ne savez plus avec qui il faut négocier. Si vous négociez avec A, c'est D qui pose problème, etc. Et ça, c'est malheureusement, l'Afrique va probablement vivre avec cela.
Et ça va freiner ce développement dont vous parliez ?
Ça va freiner ce développement parce que, évidemment, vous n'aurez pas un Mali intégré, un territoire malien entier, et ça va également métastaser probablement en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que le défi du terrorisme, le défi sécuritaire, nous allons vivre avec cela pendant les années qui vont venir.
Je croyais que vous alliez parler aussi du défi de l'éducation, qui représente cette éducation précisément un antidote à cet islam pétrifié qui n'admet pas la raison.
C'est l'antidote.
Ouais.
Malheureusement, une fois qu'on le dit, on décourage presque ses interlocuteurs parce que tout le monde se rend compte que l'éducation, ça porte ses effets sur le long terme, moyen et long terme. On a envie d'avoir des solutions tout de suite parce que les choses sont critiques, elles sont insupportables. Eh bien, c'est vrai que dans l'immédiat, il n'y a que des mesures sécuritaires à prendre.
Mais à long terme.
Mais à long terme, c'est l'éducation qui va être la clé. Oui, pardon.
Sur le plan doctrinal, vous défendez un islam des Lumières et il y a une espèce de comète impressionnante d'islam fondamentaliste qui emporte tout avec elle. Est-ce que parfois vous êtes découragé face à ce phénomène ou vous considérez que...
J'ai dit une fois, on ne fait jamais autant de bruit qu'une bombe, évidemment. Je veux dire, une parole de réflexion, ce n'est pas la même chose qu'un slogan. Une parole de réflexion en général d'ailleurs ne trouve pas à s'exprimer sur l'internet qui est un espace qui est fortement occupé précisément par ce discours, les discours les plus simplistes avec les slogans, les plus spectaculaires, complotistes, ceux-là trouvent tout naturellement leur chemin dans ce nouvel espace public qui est devenu l'internet. Mais l'un dans l'autre, je crois que la patience de l'éducation aura quand même raison.
Vous êtes musulman et soufi, vous appartenez à cette... c'est une mystique, c'est une spiritualité, c'est une métaphysique, qu'est-ce que c'est ?
Disons que le soufisme, c'est la face mystique de l'islam.
Oui.
C'est la face mystique de l'islam, qui, depuis le XIIe siècle à peu près, s'est organisée également en de grands groupes, en des confréries, ou des voix, comme on les appelle. Et c'est, vous savez, cet état est pratiquement un état naturel en Afrique de l'Ouest où les gens, j'allais dire, naissent dans des confréries. Bon, on ne naît pas dans une confrérie, il faut à un moment donné en faire le choix et savoir exactement ce qu'on fait. Mais oui.
Souleymane Bachir Diagne, vous enseignez la philosophie islamique, les philosophes des Lumières, en tout cas des gens comme Averroès, mais ça remonte au XIe siècle, XIIe siècle. Y aura-t-il à nouveau un regain dans la philosophie islamique et chez les penseurs musulmans de nouvelles lumières, en quelque sorte?
Je suis heureux que vous posiez la question. Je suis heureux que vous posiez la question. Quand j'ai commencé, quand j'ai créé un enseignement de philosophie islamique à Dakar, d'abord, où j'enseignais, j'ai enseigné la période classique qui va en gros du 9e siècle à la mort d'Averroès. Et une question que me posaient mes étudiants, c'est « Et aujourd'hui ?» Ce qui m'a amené à m'intéresser à Mohamed Iqbal. Et je prends ce nom comme réponse à votre question. Je crois qu'un philosophe qui est également un penseur et un poète comme Mohamed Iqbal aura exprimé pour notre temps cet islam de l'ouverture, cet islam du pluralisme, cet islam ouvert d'abord sur l'avenir.